Écoutez, vous savez sans doute, c'est dans cet hôtel, c'est dans ces Alpes, dans ces montagnes des Alpes. Je suis venu ici avec le père Emmanuel, le père Jean et les ermites de Montmorin, 50, 60 fois. Ben, nos ermitages sont de l'autre côté de la montagne. Vous voyez, donc voilà. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je crois à quelques minutes près, j'étais ordonné prêtre il y a. C'est l'anniversaire. Ça doit être maintenant j'ai honte, le 28e anniversaire. Ça fait 28 ans. Je suis un jeune prêtre, normalement à mon âge. Les prêtres qui ont mon âge, ils ont 50 ans de sacerdoce. Non, peut-être pas, 40 ans, 45 ans. Voilà, donc comme vous assistez, nous allons célébrer la messe ensemble à la Salette, c'est magnifique. Ce petit oratoire sera pour nous, de temps en temps, parce que pas tout le temps. L'adoration, c'est à peu près à 10 mètres plus loin. Il y a une chapelle, toute flambante, avec l'adoration permanente.
Promène la nuit ?
Je suppose. Je le suppose. Et... pour ce qui est de dormir et de manger, c'est donc en bas. Et pour ce qui est du moment où on pourra faire peut-être une petite méditation ou autre, ce sera au troisième étage. Alors, pour monter les escaliers, c'est pas compliqué, il y a des ascenseurs. Troisième étage, on a une vous verrez, il y a plusieurs pièces, une pièce qui est pour nous tout seul. On pourra prendre position là, en dehors des moments de... En fait, on ne va pas avoir beaucoup de temps, hein, je veux dire, parce que à la Salette, on ne peut pas faire autrement que d'aller au lieu de l'apparition. C'est dimanche demain, donc bien sûr qu'on va assister à la messe solennelle dans la basilique avec les autres. Et il va falloir quand même, on va courir un petit peu dans la montagne. Moi, mon ambition, ça aurait été de faire le chemin de croix d'en bas, là, du village de la Salette. Vous voyez, il y a 4 km comme ça, où on monte, comme ça, là, le grand chemin de croix de la Salette. Père Emmanuel faisait ça avec son père à genoux, une fois par an. Il montait à genoux, comme ça, les 4 km. Bon, nous, on est fatigués, on se contentera de faire le chemin de croix de 150 mètres. On sera déjà très fatigué au bout de 150 mètres. Parce que nous, on est très fatigués, vous comprenez ? On n'est pas à la même génération que ces soldats vaillants qui, à l'âge de 80 ans, faisaient des chemins de croix de 14 km à genoux. Enfin, pas 14. C'est très agréable d'ailleurs. Un jour, il faudra revenir pour faire le chemin de croix. Depuis le village de la Salette. Mais nous l'avons fait, hein ?
Oui.
Nous l'avons fait, nous l'avons déjà fait. Voilà. Bon, alors, c'est bien la première fois que je viens ici depuis des années quand même. C'est très la Salette. Notre-Dame de la Salette, c'est quand même, on peut dire, Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est la Vierge de l'Apocalypse, elle apparaît dans ce lieu un peu apocalyptique et avec des grandes chaînes, des chaînes énormes, des petites chaînes, surtout des grosses chaînes pour enchaîner l'Antichrist et pour enchaîner le Satan. Donc les petites chaînes, c'est pour enchaîner l'Antichrist et les grandes chaînes, c'est pour enchaîner Satan. C'est la grande préoccupation. C'est notre préoccupation à nous. C'est la préoccupation de la petite Vierge Marie, de la bienheureuse Vierge Marie, de la glorieuse Vierge Marie, de la femme de l'Apocalypse, de la femme même de Nazareth. Sa grande préoccupation, c'est d'enchaîner Satan et d'écarter les antichrists. Elle a tellement écarté les antichrists que du coup, l'ange Gabriel est apparu. Qu'est-ce qu'elle a fait, n'est-ce pas, hein, pendant 14 ans? Les 14 ans du chemin de croix de Marie, de sa conception jusqu'à la visitation. Ce chemin de croix de Marie a abouti à ce fait qu'elle a écarté tous les antichrists de tous les temps. Et Satan autour d'elle et autour de tous ceux qui seraient en elle. C'était sa seule préoccupation. Que tout, partout, il n'y ait aucune place qui ne soit réservé qu'au Christ. Et donc tous les antichrists, Satan, c'est beau ça. Savoir que c'était sa seule préoccupation. Et Notre-Dame de la Salette, c'est ça, quoi. C'est la Vierge qui vient à bout très vite, finalement, des racines, des causes du mal. Donc de notre bouche, il n'y a plus aucun mal. Aucun jugement. Le seul jugement, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Oui, le seul jugement, c'est ceux qui n'ont pas la foi qui portent un jugement. Mais Jésus, lui, est venu pour un jugement. Il est venu juger le péché. L'Antichrist et Satan. Je suis venu pour un triple jugement. Pour juger le péché, pour juger le monde, l'Antichrist. Et Satan. C'est une très grande parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean pour montrer que, il dit, je suis venu pour juger le péché, pour montrer que le péché, c'est qu'il ne croit pas. Le fait de ne pas croire, c'est ça le péché. Et Marie, elle a cru. Elle a cru dès le départ, dès le premier instant de sa conception, 9 mois avant sa naissance, Marie a cru. Elle a porté l'acte de foi à son état sublime, de perfection. 9 mois avant la naissance, qui prouve qu'on peut avoir la foi, même avant d'avoir un cerveau. Puisque Marie n'avait pas de cerveau à cette époque-là. 9 mois avant la naissance, nous non plus, on n'avait pas de cerveau. Et le péché, le seul péché qui soit le nôtre, le seul jugement, c'est tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, automatiquement, tu vas juger ton prochain. Tu vas dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, pourquoi tu? Voyez ça? Alors, il n'y a pas de jugement. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a institué, que tu as institué une nature humaine. Une nature humaine que nous partageons avec Marie, que nous partageons avec Jésus. Une nature humaine immaculée. Une nature humaine totalement immaculée. C'est une montagne, un sommet inatteignable d'immaculation. La nature humaine face au monde de la création. De l'univers. La nature humaine a cette caractéristique substantielle, c'est qu'elle est immaculée. Et si il y a quelque chose dans notre nature humaine qui est un petit peu perturbé, c'est à cause du jugement. C'est parce que le péché qui est en nous montre que nous sommes tombés du point de vue de la foi. Mais la nature humaine, si nous croyons, si notre nature humaine reste attachée à Dieu, reste attachée au Père, reste attachée au Verbe qui l'illumine, reste attachée au Saint-Esprit, reste attachée au monde de la vie éternelle. Si nous croyons, et en croyant, si nous pénétrons, nous sommes imbibés, notre nature humaine est tout à fait elle-même. Et ce qui fait la substance de la nature humaine, c'est qu'elle est immaculée. Toute personne qui fait partie de la nature humaine, le poids, le centre de gravité de la nature humaine, là où il a son centre de gravité, mais sans comparaison beaucoup plus, c'est l'Immaculée Conception, c'est la nature humaine du Christ. Donc la nature humaine qui est la nôtre a son centre de gravité, sa substance, sa sève, son centre, sa chambre intérieure dans l'immaculation. La nature humaine est immaculée substantiellement. Et si la nature humaine a quelque part des petites taches, c'est purement périphérique, c'est de la poussière, c'est extérieur, c'est rien. De voir l'Immaculée, de voir Jésus, de voir la nature humaine intégrale dans l'au-delà de l'unité sponsale. Vous voyez, c'est ces trois visions que nous faisons en même temps, nous permettent de rentrer dans notre véritable nature. La grande philosophie la découverte de notre nature, notre corps, notre lumière intérieure, notre conscience de foi, qui est une foi divine, qui est une foi céleste, qui est une foi immaculée, qui est une foi invincible, qui est une foi universelle, qui est une foi qui nous fait rentrer immédiatement, sans voile, dans l'éternité, dans l'instant présent. Ça, ça appartient à la nature humaine. Ça n'appartient pas à la nature angélique en soi, ni à la nature animale. La nature angélique, oui, elle va participer à l'immaculation divine par la médiation de la nature humaine de Jésus, par la médiation de la nature humaine immaculée de Dieu, par la médiation de la matière vivante qui est une puissance sans limite d'immaculation. Et cette nature humaine, c'est la nôtre. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons une nature humaine. Voyez ça. Et quand on se trouve sur la montagne de la Vierge, on réalise, on prend conscience que sa seule préoccupation, c'est de faire en sorte que dans la nature humaine entière, dans tous les temps, dans tout l'univers et au-delà même, de la vie, de la mort et du temps, toute la place soit donnée à Dieu, au Verbe de Dieu, à l'Esprit Saint et au Messie d'Israël, au Messie, qu'il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'elle écarte l'Antichrist, elle a les chaînes. C'est la Vierge de l'Apocalypse. Ça a été sa seule préoccupation. C'est beau, Salette, je trouve, c'est en train de la Salette, de voir que c'est la seule préoccupation de Marie. Pour autant qu'elle ait une préoccupation qui lui soit personnelle, c'était ça. Parce que ça appartient à la foi d'écarter Satan et de faire que la nature humaine reste elle-même. Une nature humaine qui, un être humain qui n'a pas la foi, c'est plus un être humain. Et il devient pire qu'une bête. Il devient pire que Satan, qu'un ange déchu. Parce que ça fait partie de notre nature. Pourquoi ? Parce que notre nature, c'est celle de Dieu. Dieu a pris chair. Et l'Immaculée Conception, c'est notre nature humaine. Si on veut savoir ce que c'est que notre nature, on regarde. Si on veut savoir ce que c'est que notre cœur, on regarde le cœur de Marie. Si on veut savoir ce que c'est la vie contemplative, on regarde la contemplation de Marie. Si on veut savoir ce que c'est que la gloire et l'accomplissement dans l'éternité de la nature humaine, on regarde Jésus. Et les gens ne comprennent plus où est-ce qu'ils sont, mais pourquoi ? C'est parce que Jésus est venu pour un jugement, pour montrer où est le péché. Le péché, c'est qu'il ne croit pas dans le Fils de l'homme. Il n'y a pas d'autre péché. Bon, je voudrais pas qu'ils fassent venir les videurs à l'heure de la fin de l'allocation du... Pardon Seigneur, mais... C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. On va avoir la foi. On va croire. Donc voilà, c'est un anniversaire. Je vous rappelle que, pour la petite histoire, que quand vous assistez à la messe, anniversaire d'ordination d'un prêtre, vous recevez l'indulgence plénière. L'indulgence plénière. Bon, il faut se confesser dans la semaine quand même. À condition d'être confessé la semaine d'avant ou la semaine d'après, hein, avant. Voilà, voilà. Donc quand vous assistez à une première communion, un petit enfant qui fait sa première communion, indulgence plénière. Quand vous assistez à l'anniversaire de l'ordination d'un prêtre, indulgence plénière. C'est-à-dire, tout de suite, je ne vous souhaite pas de mourir, qu'on meure tous à la fin de la messe, mais on se meurt tous à la fin de la messe, pas de purgatoire.
beau, ça.
C'est pas pour ça que... On a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Chrysostome, c'est pour ça que je suis en habit glorieux. Je crois que nous allons passer 3 jours. Ce ne sera pas comme d'habitude, c'est-à-dire ce ne sera pas une... toute une ascension contemplative, méditative, voilà, pour rentrer dans le monde de nouveau. Parce que c'est un pèlerinage, et un pèlerinage, il y a un côté ascétique dans un pèlerinage toujours fatigant. Hein. Donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Un pèlerinage, c'est toujours fatigant, parce que une session, c'est pas pareil. On est au même endroit, quelque part, on est en paix. Tandis qu'un pèlerinage, il faut toujours courir. Toujours aller là. Alors c'est pas pareil. Mais quand même, pendant ces 3 jours et demi, on va passer ici, le plus gros du temps. Finalement pas trop. Nous irons chez Notre-Dame du Los, voir la Vierge à Notre-Dame du Los, une apparition de l'époque du roi Louis XIV. Et puis peut-être on ira voir Montmorin, on ira vénérer la Santissima Bambina, vous voyez, comme ça. On descend comme ça, Santissima Bambina, la tombe du Père Emmanuel. Voilà, et puis pendant ces 3 jours, on fera ce parcours, peu importe. Le parcours qu'on fait, c'est pas ça l'important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est le pèlerinage intérieur. Donc le pèlerinage intérieur, c'est que nous marquons le ciel, la Jérusalem glorieuse, veut inscrire à l'intérieur de nous une étape. Le ciel veut qu'on avance. Ce n'est pas possible que l'humanité n'avance pas. Et ça dépend. Ça dépend de nous. Et donc, on ne peut pas se retrouver comme ça entre nous et ne pas avancer. Donc, il faut avancer en eau profonde, vous voyez. On fera de notre mieux. On fera de notre mieux. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, c'est le mois de septembre. C'est le mois de la croix glorieuse de Jésus. C'est le mois où le signe du Fils de l'homme se présente à nous. Où Dieu attend de ceux qui le reçoivent que le voile s'ouvre pour eux. Que les portes de la Jérusalem d'en haut s'ouvrent pour eux. Qu'ils puissent voir le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Dès cette terre, qu'ils puissent le désirer ardemment, qu'ils puissent déjà pénétrer dans cette vision, qu'ils puissent déjà être les apôtres des derniers temps, si je puis dire. Plus exactement, les apôtres de l'ouverture des temps. Les apôtres de l'Immaculée Conception, les apôtres de l'innocence divine, béatifiante, primordiale, et les apôtres de l'innocence béatifiante, glorieuse, finale, celle qui doit voir le voile s'ouvrir sur les processions incréées de Dieu. Et pour ça, il faut que l'Église, c'est-à-dire que la nature humaine, que la barque de Pierre, que la nature humaine, c'est-à-dire le cœur de Marie, au milieu de ce monde, court, avance, se réfugie et inonde de sa présence toute la Jérusalem glorieuse à partir de la foi de la terre. Des portes doivent s'ouvrir. Il ne s'agit pas seulement d'être fidèle, mais des portes doivent s'ouvrir. La foi nous fait pénétrer dans les profondeurs, mais du coup elle ouvre aussi les portes vers le sublime, vers l'accomplissement. Et c'est la rencontre de l'accomplissement et du sublime, de l'innocence béatifiante qui fait notre vie et qui fait que la nature humaine avance. Alors le mois de septembre, c'est le mois de la croix glorieuse. C'est-à-dire le mois où l'Église dit que cette croix glorieuse, toute l'Église aspire à voir le ciel s'ouvrir et le signe du Fils de l'homme apparaître. La parousie. Il faut avancer. Et qui est plus que la parousie. L'Église, tant qu'elle n'est pas rentrée dans cette messe, voyez, dans cette mission invisible des personnes divines, qui fait qu'il n'y a plus que la parousie pour nous dans la foi. Il n'y a que la parousie. À ce moment-là, voyez, il y a quelque chose de notre âme de la Salette qui va pouvoir s'épanouir dans le monde entier, dans notre cœur. Vous voyez ça? Vive de la parousie. C'est le mois de septembre. Et en même temps, pour les Juifs, depuis 3300 ans, eh bien, on vénère dans ces jours-ci le Hoshana Rabba, la grande fête du pardon. Et c'est la fête de Sukkot, en fait, la fête détente. On est sorti de chez nous, on est en pèlerinage, on n'est pas chez nous, on court dehors de la maison, on prie, on supplie, on se rend pur pour le dernier jour, pour le saut du temps. Le saut du temps final, le saut final du temps. C'est la liturgie d'Israël qui veut ça. Que les jours d'aujourd'hui, depuis 3300 ans, ils vénèrent dans les jours d'aujourd'hui, en fait, de Sukkot et surtout le Hoshana Rabba, qu'on fêtera plutôt après-demain. Hoshana Rabba, l'ouverture des temps. Et dans l'ouverture des temps, toute la splendeur d'Israël, toute la splendeur des 3300 ans de la foi d'Israël, va se retrouver comme ça dans l'ouverture des temps. C'est l'aspiration de toutes les liturgies d'Israël, de toutes les prières d'Israël. Il y a un moment où les prières d'Israël rejoignent dans le cœur de Marie les prières de l'Israël véritable, de Dieu, et des saints, de Christ et de l'Église. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. La rencontre prodigieuse de la sainteté messianique et de la sainteté de l'agneau vont se conjoindre dans l'au-delà de l'unité d'eux pour l'ouverture des temps, la rencontre, voyez, avec l'accomplissement de toute la vocation, la sainteté messianique de Dieu sur la terre. C'est Israël. Et elle se rencontre parce que, avec l'offrande immaculée de l'ouverture des temps et de la Jérusalem glorieuse, dans la venue du Fils de l'homme. On en parlera, ça je crois que c'est là-dessus si vous voulez. Là-dessus, d'accord, on va essayer de scruter, de pénétrer dans ce sanctuaire-là. Hein? Pendant 3 jours, on n'aura pas beaucoup de temps. Mais on va le vivre, si vous voulez bien, le plus intérieurement possible. Le plus intérieurement possible. Ça s'appelle le pèlerinage intérieur. Le pèlerinage des enfants d'Abraham, des enfants de la foi, des enfants d'Isaac, des enfants de Moïse, des enfants de Yeshua, des enfants des saints et des prophètes, qui ont toujours mis l'amour du Messie et de Dieu avant toute chose. On va mettre ça dans notre cœur, quoi. Pendant ces 3 jours, j'aimerais beaucoup en tout cas que ce soit ça. Bon, alors figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est que notre nature humaine a été brisée dès le départ avec nos premiers parents. Il y a quelque chose qui s'est brisé et notre nature humaine a perdu quelque part la splendeur immaculée, envahissante et accomplie de la foi. Alors du coup, effectivement, nous avons il y a quelque chose qui s'est abîmé en nous. Alors Jésus est venu et il a créé un nouvel habit, une nouvelle tunique, un nouveau manteau, tout immaculé, tout divin, tout glorieux, tout surnaturel. Voilà, pour remplacer le manteau immaculé de l'innocence originelle. Mais voilà, donc le peuple de Dieu a déchiré le rideau du temple, du corps de Dieu, du corps du Verbe de Dieu. Ils ont déchiré, et nous avons déchiré le rideau du temple. Ce deuxième désastre est terrible. Alors du coup, Jésus étant déchiré, nous a donné Marie, vous comprenez? Il nous a donné l'Église, il nous a donné les sacrements. Dire qu'il a donné Marie, l'Église et les sacrements, ça veut dire la même chose. Il nous a redonné une nouvelle nature, une nouvelle virginité surnaturelle. Et ça dure 2000 ans comme ça. Depuis 2000 ans, c'est comme ça. Et cette nature humaine, dont le centre de gravité est immaculé, marial, sacramentel, et ça aboutit à cette année d'aujourd'hui, c'est ces jours que nous vivons, où c'est le sanctuaire lui-même, puisque la nature humaine, on ne peut pas aller plus loin pour détruire la nature humaine en Dieu. Alors Satan et l'Antéchrist ont décidé de pénétrer au-delà du sanctuaire du temple de la nature humaine. Ils ont décidé de rentrer dans l'union hypostatique de Dieu. Dans l'union hypostatique de Jésus, au-delà de l'union hypostatique de Jésus et au-delà de l'Immaculée Conception, dans leur temple qui leur est réservé. Vous comprenez? Qui peut pénétrer dans le lieu d'où le Père, l'Esprit Saint, ont créé l'Immaculée Conception, ont créé l'union hypostatique de Jésus? Personne ne peut rentrer dans ce sanctuaire. Et pourtant, le démon a décidé d'y rentrer. Et c'est au bout de 2000 ans de prière chrétienne qu'on arrive à cette déchirure du temple nouveau. Vous voyez, le voile se déchire. Alors, comme le voile se déchire sur ce qu'il y a de plus inatteignable, sauf par les sources éternelles de l'Eucharistie. Alors, à ce moment-là, nous avons abouti à une situation limite de fragilité dans notre nature humaine où la foi a disparu de ce monde. La foi a disparu. La charité s'est refroidie. On ne cesse de se juger les uns les autres. Tous nos mouvements intérieurs sont des mouvements en dehors de la foi. Le sanctuaire est dévasté. Et ça, c'est vrai aussi bien pour Adam que pour Judas et les fils d'Israël du Sanhédrin, que pour l'Église catholique d'aujourd'hui. L'Église catholique d'aujourd'hui se trouve là, j'allais dire, immobile. Glacé, si je peux dire. Oui. Mais ce sanctuaire où Dieu crée l'Immaculée Conception et le Verbe de Dieu dans sa nature humaine, dans son union hypostatique déchirée, et l'illumination de tout être au moment et à l'instant même où il vient dans ce monde, comme c'est ce voile-là qui est déchiré, ce temple-là dans lequel il cherche à pénétrer, l'Eucharistie cherche à y pénétrer aussi. Mais elle n'y pénétrera pas sans y faire pénétrer aussi tous les enfants du monde et tous les enfants d'Israël. Et par cette ouverture eucharistique, mariale et parousiaque d'Apocalypse, par cette grâce-là, tous les enfants d'Israël pourront pénétrer avec nous dans le mystère eucharistique pour l'ouverture des temps. Ils donneront une force messianique à l'ouverture des temps que nous ne pouvons pas donner seuls. Parce que c'est les racines de Dieu dans la terre qui doivent surgir désormais dans l'eucharistique. Et ça, Dieu a donné cette vocation à Israël. Il l'a donnée aussi à ceux qui seront partis du véritable Israël de Dieu. Mais ils ne feront pas l'un sans l'autre, vous voyez ça. C'est pour ça qu'on célèbre la messe, donc de 18h, ça finalement, faut pas être 18h finalement. Célébrons cette messe pour pouvoir inviter. Et nous le ferons à chaque fois de la manière la plus, de plus en plus précise, avec un pèlerinage intérieur de plus en plus lumineux, clair, dans une clarté parfaite. Nous allons inviter ces 3300 ans de grâce messianique et tous ceux qui les ont portés, et surtout ceux qui les ont portés depuis 2000 ans, sans avoir reçu le baptême eucharistique. Nous allons les porter. Nous allons les convoquer et nous allons ouvrir les portes qui puissent entourer l'autel cette fois dans le nom d'Elohim, dans le nom de Yahshua, HaMashiach, de manière qu'ils puissent être réveillés, si je puis dire, à la nouvelle naissance de la parousie et qu'ils puissent jouer leur rôle pour le cri de l'Église qui doit ouvrir les temps. Voyez, on le verra ça. Apparemment, cette grâce du cri de l'Église pour ouvrir tous les temps n'est pas donnée au Saint-Père. Elle n'est pas donnée au Saint-Père. C'est clair. Nous en reparlerons parce que tout ça, c'est marqué dans l'Écriture. Il ne faut pas que cette grâce soit donnée au Saint-Père, au successeur de Pierre et au pape. Il est donné au pape. Mais il est donné au pape, oui, si je puis dire. Il est donné à travers le pape et par la médiation du pouvoir des clés du Saint-Père. Mais ce cri, c'est le cri du nouvel Israël, de l'Apocalypse de Dieu. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne intérieurement. La puissance du prophète Élie qui revient eucharistiquement dans le baptême de la parousie. Et il faut absolument que notre foi restitue notre nature humaine dans sa puissance d'humilité, sa puissance contemplative, d'innocence parfaite. Nous sommes les portes de la félicité éternelle de Dieu dans le sein des saints de la terre. Tout le reste n'a pas grande importance. Alors, si vous voulez bien, c'en est fini pour l'introduction. Nous allons demander à Jésus de nous aider. On ne peut pas être mieux qu'à la Salette pour l'ouverture du ciel et qu'il y ait un ciel nouveau dans notre foi. Et si vous voulez bien, à chaque messe que nous célébrons, nous commençons toujours par le credo, sauf le dimanche. Et en disant le credo, nous allons convoquer les environ 200 millions de juifs qui sont morts sans baptême depuis 2000 ans et qui attendent la convocation de l'Église sur l'autel de Marie. Nous serons sans doute pas les premiers, mais nous ferons partie de ceux qui les convoquent réellement, intérieurement, lumineusement et personnellement sur l'autel eucharistique des parfums, de la sponsalité de la parousie. Et nous allons les convoquer, nous dirons, voilà, vous êtes les fils d'Abraham, vous n'avez pas été baptisés de Moïse et de David, vous n'avez pas été baptisés depuis 2000 ans, mais vous attendez parce que vous avez été mis de côté pour que votre vocation, votre mission puisse s'accomplir avec la patience des temps. Et quand votre heure sera arrivée, et elle est venue aujourd'hui, la patience des temps prend fin, nous vous revêtons de la robe d'innocence, et de la robe messianique, et de la robe de l'agneau de Dieu, du Verbe de Dieu, pour que vous puissiez être admis avec nous à l'autel du sacrifice divin. et de l'immolation qui ouvre toutes les portes de la Jérusalem glorieuse et qui va permettre au pain du Père de faire apparaître le Fils de l'homme venir sur les nuées pour anéantir l'Antichrist. Le monde, le temps, l'Antichrist et Lucifer. Et c'est nous qui vous convoquons. Et nous vous convoquons, vous savez, Ecclesia, l'Église. Ça veut dire, je crie. Un cri qui sort ex. Je crie en dehors pour appeler. C'est une convocation, l'Église, c'est une convocation. C'est une grande voix, vocation, c'est une vox. Vox, ça vient du latin vox, vocis. C'est pas la voix, une grande voix qui crie pour que tous ensemble, en commun, une convocation, nous soyons là. Et c'est ça les catholiques. Les catholiques, c'est ceux qui convoquent ceux qui ne sont pas catholiques. Et qui deviennent les enfants vivants de l'Église de la Jérusalem glorieuse dès cette terre. C'est ça les catholiques. Donc nous dirons le credo parce que l'heure est arrivée. Ça va? Nous essaierons de comprendre de mieux en mieux comment on peut le faire. Hein, comment on peut pénétrer dans cette mission invisible des personnes divines dans notre âme par la foi. Pour atteindre chaque âme juive messianique qui n'a pas reçu le baptême depuis 2000 ans. Et pour qu'ils puissent recevoir la nouvelle naissance et qu'ils puissent enfin rentrer dans la vocation d'Israël. On verra ça, si vous le voulez bien, dans l'Écriture, dans l'Épître aux Romains, dans l'Apocalypse. On n'aura pas le temps, c'est pas grave. Mais on sait que c'est vrai. C'est la révélation et c'est la pensée de l'Église. Qu'ils vont être réintégrés dans l'ouverture des temps et la croix glorieuse. Et que s'ils ont été mis de côté, c'est pour leur réintégration. Et que si leur mise de côté a été une gloire pour le Christ dans les sacrements, quels ne seront pas les effets divins extraordinaires de leur réintégration? Et cette réintégration, elle passe au travers du Saint-Père, au travers la foi infaillible du Saint-Père, de Marie et du fruit des sacrements. Et donc il va falloir que nous rentrions dans cette mission. C'est une mission essentielle pour le monde nouveau. Avec Élie le prophète. Pitié, mon Père. Pour ceux qui t'abominent, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Père, pour ce scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Père, pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de sainte Eucharistie. Pitié, mon Père, pour ceux qui viennent s'en repentir dans ta croix glorieuse, qu'ils y trouvent la paix. La joie en Dieu leur sauveur. Pitié, mon Père, que ton royaume arrive. Sauve-les, il en est encore temps. Car voici le temps est proche, l'heure est arrivée, et voici que je viens. Vous deux enfants d'Israël, qui avez été créés par Dieu, le sang. Que l'on y aurait rendu chaque année pour le pardon des choses. Nous vous convoquons pour que vous puissiez pénétrer et nous déchirons le voile qui vous sépare de l'autel, de l'Église tout entière, de la Jérusalem spirituelle, pour l'ouverture de la porte de la Jérusalem d'en haut. Que la lumière surnaturelle de la foi fasse naître de nouveau et vous unisse à l'offre que nous faisons avec vous du mystère de Dieu et de la venue du Fils de l'homme